Même si Dele quitte la présidence du MEDEF pour rejoindre la liste de Sonia Lagarde à Nouméa, c'est l'invité de notre journal. La province sud va apporter une aide de 6 000 francs aux parents d'enfants scolarisés ou inscrits en crèche afin de répondre aux besoins en habillement ou en alimentation. Une aide exceptionnelle qui concerne 44 000 jeunes. L'UNI réaffirme vouloir poursuivre la mise en œuvre de Bougival. Une conférence de presse avait lieu ce matin. Alerte Cubomédusa au large des côtes du Grand Nouméa. Le gouvernement appelle à éviter la baignade dans plusieurs zones après des signalements de piqûres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Du changement à la tête du MEDEF, Mimsy Dele a annoncé ce matin sa démission de la présidence du syndicat patronal qu'elle préside depuis 5 ans. Décision prise après son choix de s'engager dans la campagne municipale à Nouméa sur la liste de Sonia Lagarde. Dans un communiqué, le MEDEF explique que cette démission est fidèle à ses principes de veiller à préserver une stricte séparation entre ses missions de représentation économique et tout engagement politique individuel. Mimsy Dele, qui est ce soir notre invité, Jean-François Bodin.
Oui, Mimsy Dele, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez rendu votre décision publique aujourd'hui de quitter le MEDEF. C'est sans doute une surprise pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais on imagine que vous, c'est une décision que vous avez longtemps mûrie. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix, à quitter le MEDEF pour rejoindre la liste de Sonia Lagarde pour les élections municipales et donc pour briguer un mandat municipal?
Effectivement, vous avez raison de souligner que c'est une réflexion longue que j'ai mûrie ces derniers mois. 5 ans d'engagement total à la présidence du MEDEF qui m'ont fait toucher du doigt, bien évidemment, la situation catastrophique dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie et, au fond de moi, l'envie d'aider à la reconstruction de ce territoire. Et aujourd'hui, je pense que je dois porter mon engagement plus loin. La défense de l'entreprise a été mon seul but ces 5 dernières années. Mais j'ai le sentiment que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'engagement et je suis une fervente partisane de l'engagement du secteur privé dans la vie public et c'est pour cela que je m'engage.
Ça veut dire que vous pensez être plus utile aujourd'hui dans votre rôle d'élu, encore une fois les élections ne sont pas passées, qu'à la présidence du MEDEF ?
Je pense que le MEDEF aujourd'hui est très solide et que les équipes continueront autour de Bertrand Court de porter les travaux que nous avons menés de ces derniers mois. Aujourd'hui, le fait de m'engager sur les municipales, ça me permet aussi de m'exprimer sur tout type de sujet. Le MEDEF m'imposait une certaine neutralité dans mon expression sur un certain nombre de domaines, et notamment ceux de nos institutions et évidemment le champ politique. Aujourd'hui, je pense sincèrement que la municipalité, c'est un échelon indispensable à la reconstruction de notre territoire. Et la mairie de Nouméa, évidemment, me tient énormément à cœur. Et donc, c'est pour cela que je m'engage à fond dans ce projet-là.
Alors, votre prédécesseur, on s'en souvient, Samuel Népéon, avait été élu et il avait démissionné quelques mois, lui aussi, plus tard, pour rejoindre la vie politique. Il voulait aller au gouvernement. Bon, ça n'avait pas marché vraiment comme il voulait, mais il avait fait le même parcours que vous. De là à penser que la présidence du MEDEF est un tremplin vers des horizons politiques, certains vont le penser. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, déjà, que les deux situations soient assez différentes. Samuel avait passé 9 mois au MEDEF. J'ai passé 5 ans, 5 ans intenses à mener des combats majeurs aux côtés des entrepreneurs. Non, je vous dis, l'expérience du terrain, l'expérience du dialogue social aussi avec les partenaires sociaux, syndicaux, les partenaires politiques, m'ont fait toucher du doigt la nécessité d'aller plus loin et de porter d'autres messages. Aujourd'hui, je pense juste que mon engagement change, certes. Néanmoins, il est toujours dans le but d'une reconstruction à la fois économique, mais aussi sociale, et cet aspect me tient beaucoup à cœur, de la Nouvelle-Calédonie.
Dans quel état, pardonnez-moi, je mets des guillemets, mais laissez-vous le MEDEF aujourd'hui? Vous l'avez dit, il est solide, les équipes sont constituées, il va poursuivre son rôle de défense de l'entreprise?
Oui, je crois que le MEDEF aujourd'hui est un MEDEF apaisé, c'est un MEDEF également extrêmement sérieux et combatif sur tous les dossiers, qui a énormément contribué aux propositions de refonte et de relance de notre économie. Aujourd'hui, les travaux avec l'État ont permis d'aboutir à un plan de soutien robuste de l'État. l'État à l'économie calédonienne. Donc quelque part, oui, ça c'est le travail accompli. Le MEDEF a également beaucoup renforcé ses effectifs. On était à peu près 300 quand je suis arrivée. On est aujourd'hui, le MEDEF compte 500 adhérents. Donc je dirais que je regarde avec fierté le chemin accompli, mais aussi avec confiance, parce que je sais que le MEDEF est aujourd'hui très très bien géré, à la fois par une équipe de permanents particulièrement solide, et puis par le comité directeur et Bertrand Courte en premier lieu.
Alors un mot justement sur la transition, parce que vous avez quitté la présidence, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir des élections pour occuper votre poste. C'est le vice-président qui statutairement devient président jusqu'à la fin de la mandature, donc c'est Bertrand Courte qui est aujourd'hui le président du MEDEF.
Absolument, on est dans cette continuité. Bertrand m'accompagne déjà depuis plusieurs années, il est vice-président du MEDEF, totalement investi, et effectivement statutairement c'est lui qui ira au bout des deux dernières années de ce mandat.
Qu'est-ce que vous retirez, vous, personnellement, de votre passage, long passage au MEDEF pendant 5 ans ?
Bah écoutez, énormément de bons souvenirs aussi, malgré les difficultés auxquelles on a fait face, parce que beaucoup de compétences dans tous les sujets qu'on a eu à traiter, que ce soit au niveau local, au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des partenaires sociaux, je l'ai dit, et de l'État, évidemment avec les entrepreneurs. Je pense que ce qui est important, c'est cette écoute qu'on doit avoir entre nous et ce respect, mais aussi le travail, fondamentalement. Et c'est aussi pour cela que je m'engage aux côtés de Sonia Lagarde, c'est parce que je respecte beaucoup cette éthique de travail et cette rigueur dont elle fait preuve dans le pilotage de la ville de Nouméa. Moi, je souhaite apprendre, comme j'ai appris pendant 5 ans au MEDEF. Ça n'est pas facile tous les jours, loin de là. Mais avec de l'écoute, du courage et du respect, on s'en sort.
Dernière question, même si délai, à quoi va ressembler votre quotidien après la présidence du MEDEF ? Vous êtes, on rappelle, chef d'entreprise, commerçante, et vous allez désormais vous engager pleinement dans la campagne municipale dans les jours et les semaines qui viennent ?
Bien évidemment, oui, je suis commerçante. Je l'étais déjà, je le reste, et c'est ma principale activité. Je suis commerçante à Nouméa. Et bien sûr, je vais m'engager pleinement dans cette campagne, aux côtés de cette liste qui est très variée, qui représente véritablement la société civile et qui a aussi beaucoup d'expérience de la gestion de la ville. Donc, beaucoup à apprendre, et je regarde cette page avec beaucoup d'optimisme et d'espoir.
Mime Sidélé, ex-présidente du MEDEF, est désormais engagée pour les municipales à Nouméa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci.
La province sud vient en aide aux familles. Les élus étaient réunis en séance publique ce matin à la mairie de Nouméa. Ils ont notamment décidé de la ventilation de la dotation de solidarité républicaine. Une enveloppe issue du prêt garanti par l'État. La province sud bénéficiera d'un peu plus de 473 millions de francs pour financer des actions ponctuelles pour 2026, parmi lesquelles une aide pour les familles dans le cadre de la rentrée scolaire. Elle va bénéficier à 44 000 jeunes. Sonia Baquès, présidente de la province sud.
On voit bien que les difficultés aujourd'hui des familles de la province sud sont sur tous les sujets de paiement des repas, de paiement des vêtements. Donc en fait, on a mis en place une aide pour tous les élèves, de la crèche jusqu'à la terminale, de 6 000 francs par élève, qui permettra soit de payer la cantine, soit d'acheter avec un bon d'achat dans les magasins les besoins pour les enfants. L'aide qui est accordée par l'État est une aide exceptionnelle, elle n'est que pour cette année. On a voulu justement avoir de manière visible une aide exceptionnelle. Quand on va donner un bon d'achat de 6 000 francs, je pense qu'il n'y a pas d'attente que ça se reproduise de manière systématique, alors que si on avait baissé le coût de la cantine, personne n'aurait compris qu'on vienne derrière la réaugmenter. Donc on a voulu que cette aide exceptionnelle apparaisse bien comme une aide exceptionnelle.
La province sud a également décidé d'aider davantage les centres de vacances et de loisirs en mobilisant une partie de l'enveloppe de la dotation de solidarité républicaine. L'aide provinciale est revalorisée de 100 francs par jour et par enfant, passant ainsi à 560 francs et 610 pour les enfants en situation de handicap. Cela permet de baisser le prix de la facture pour les ménages. Enfin, les élus ont également décidé de maintenir le dispositif PRIC, Programme Provincial de Réinsertion Citoyenne, qui est prolongée jusqu'en avril 2027. À Lifou, le débat d'orientation budgétaire des îles Loyauté était à l'ordre du jour de l'Assemblée de province à Oué. Une séance qui a notamment permis de présenter plusieurs mesures pour réduire fortement les dépenses de la collectivité, alors que la situation financière reste fragile. Sur les 4 milliards de dettes prévisionnelles, un peu plus de 2 milliards ont déjà été remboursés en 2025. La province prévoit de continuer à diminuer ses dépenses de fonctionnement. L'UNIASSIUM, sa signature de l'accord de Bougival et de son accord complémentaire Élysée-Oudinot. Face à la presse, il explique qu'il faut maintenant aller de l'avant et s'engager dans la mise en œuvre de cet accord, Elisabeth Noir.
Les trois composantes de l'UNI étaient représentées, le PALICA, l'UPM et l'UNID, ainsi que deux signataires, Jean-Pierre Diaoué et Adolphe Digoué. Et ils se sont exprimés pour une défense sans condition de l'accord de Bougival et de son accord supplémentaire. Pour l'UNI, c'est une avancée par rapport à l'accord de Nouméa, notamment parce qu'il crée un État et une nationalité et qu'il décide du transfert de la compétence régalienne des relations internationales. L'accord de Nouméa, c'était une souveraineté partagée avec la France, dont l'accord de Bougival, la souveraineté est encore plus partagée, argumente Jean-Pierre Diaoué, le chef du groupe UNI au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pour lui, il est urgent de mettre en œuvre ces avancées et il ne faut pas faire du surplace. À l'attention des indépendantistes, il affirme qu'il ne faut pas reprendre les arguments que certains avaient utilisés contre l'accord de Nouméa.
On ne va pas dire, comme l'accord de Nouméa, que c'est une tromperie, c'est une couillonnade. Et puis ensuite, avec un corps électoral gelé, et au moment où il fallait s'exprimer sur la question du pays à la pleine souveraineté, on arrive à avoir 33 000 personnes qui se sont abstenues, parce que ben, y a des questions. Ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, c'est un écran de fumée avec rien derrière. Ben, à force de faire cette stratégie du surplace, ben, on n'avance pas. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc on a eu l'expérience de ce qui s'est passé avec l'accord de Nouméa. Maintenant, il faut aller de l'avant. Faire du surplace aujourd'hui, compte tenu de la situation économique et sociale difficile du pays, faire du surplace, c'est encore mettre la Calédonie en difficulté et s'enliser encore davantage.
L'accord est signé, le temps des négociations et des discussions entre les partenaires et l'État est maintenant terminé, affirme l'UNI. La balle est désormais dans le camp des parlementaires. Et les signataires unis ont rencontré les différents groupes à Paris, mais selon eux, rien n'est acquis.
Lorsque nous les avons rencontrés, certains disent que s'il n'y a pas de consensus en Nouvelle-Calédonie, il n'y aura pas de consensus à Paris. D'autres disent que l'accord de Bougival va trop loin, c'est l'antichambre de l'indépendance. Donc vous voyez les raisons de ne pas... Mais certains disent aussi qu'ils peuvent l'adopter parce qu'il faut aller dans le sens de l'accord trouvé par les partenaires calédoniens. La question, c'est si jamais il n'est pas accepté par les parlementaires, eh bien, il n'y a plus d'accord. Eh bien, on va aux élections provinciales et la question va se poser. Et ensuite, s'il n'y a pas d'accord, c'est l'accord de Nouméa qui se poursuit, mais il n'y a pas de trajectoire. Donc, c'est aussi l'inconnu.
Si on n'arrive pas à faire passer l'accord, on est au point mort et la Calédonie va continuer à s'enfoncer, déclare encore Jean-Pierre Diaoué. Et c'est aussi la réponse qu'il fait quand on l'interroge sur la constitution récente de l'UPK, l'unité du peuple en Kanaky, qui réunit des dissidents de l'UNI.
On ne saisit pas les occasions qui nous sont données. Bon, on est là à critiquer et puis à rester sur place. Ben, ils veulent faire du surplace. Ces gens-là, ce sont ceux qui sont dans la stratégie du surplace. Ben, la Calédonie, aujourd'hui, compte tenu de la situation, ne peut pas faire du surplace. C'est pas possible. Il faut avancer. Soit tu avances, soit tu sombres. Tu as le navire qui tombe en panne en plein milieu de la mer et qui ses moteurs ne le font plus avancer. Ben, il est au gré des flots, des vagues. Et puis le récif le plus proche, ben, il va se lever.
Et pour Jean-Pierre Diaoué, la constitution de ce mouvement est la preuve qu'il faut apporter des explications à la population. Dans un autre domaine, l'UNI va aussi s'engager dans les prochaines élections municipales avec quatre grands thèmes, la maîtrise des dépenses publiques, la sauvegarde des infrastructures primaires, la mise en œuvre des politiques publiques centrées sur l'humain et le développement équilibré des territoires et la construction de la nationalité calédonienne à l'échelon communal. La démarche UNI sera présente dans les 33 communes et souvent face à des listes FLNKS ou UC.
Oui, tout à fait. Il y aura des listes FNKS partout dans toutes les communes. Et puis, ben voilà, la campagne va être menée. Et puis, voilà, chacun défendra ses positions.
Et l'ouverture de vos listes unies peut aller jusqu'où ?
L'ouverture, c'est déjà entre ceux qui sont militants et sympathisants du PALICA, militants et sympathisants de l'UPM, et puis les membres de l'association UNID. Quand dans une commune, il y a ces personnes-là, donc on fait l'ouverture avec eux. Mais quand il n'y a pas, dans certaines communes où il n'y a qu'un seul parti, eh ben, on fait avec une démarche d'ouverture avec les citoyens qui veulent travailler pour la commune. Et même aussi avec des militants de l'Union calédonienne.
Les responsables de l'UNI ont aussi été interrogés sur les réserves émises par Paul Néoutine sur Bougival. Jean-Pierre Diaoué, Adolphe Digoué et Victor Toutougoro ont rencontré le président de la province nord à leur retour de Paris. Ils déclarent qu'à aucun moment Paul Néoutine n'a fait ses observations et qu'à aucun moment il ne leur a dit qu'il était contre Bougival. Ils retiennent pour leur part que Paul Néoutine n'est pas signataire de Bougival, mais qu'il a déclaré que chacun devait assumer ses responsabilités et que lui avait assumé les siennes comme signataire de l'accord de Nouméa.
La préparation des élections municipales des 15 et 22 mars, c'est ce jeudi 12 février à 8h que s'est ouverte la période de dépôt des listes de candidature pour le premier tour du scrutin. Elle sera clôturée le jeudi 26 février à 18h. La campagne officielle débutera quant à elle le lundi 2 mars. En attendant, les listes continuent à se faire connaître dans les différentes communes de Nouvelle-Calédonie. Et cet après-midi, c'est Liv Aillerois qui tenait une conférence de presse à l'hôtel El Cantara à La Roche-Percée pour présenter sa liste Demain Bouraille. Son mot d'ordre est de ramener l'humain au centre de Bouraille et de mettre l'intérêt de Bouraille et des Bouraillés au-dessus de tout. Liv Aillerois qui sera notre invité du matin demain à 7h30 pour nous parler de sa liste et de ses objectifs dans cette campagne municipale. Et demain midi, c'est le président de l'éveil océanien Milakulo Tukumuli qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, quelques jours après le déroulement de son conseil politique qui s'est tenu samedi dernier à Païta. Il sera interrogé sur l'accord de Bougival et sur l'accord complémentarisé Oudino, ainsi que sur son volet social et économique, mais aussi sur le positionnement de son parti qui revendique une voie médiane. Milakulo Tukumuli, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Il est 18h, passé de 1 minute. Ouvrons tout de suite notre page rentrée.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Et pour cette rentrée 2026, le dispositif de solidarité républicaine est une réponse d'urgence pour les familles et la jeunesse. C'est ce qu'indique dans un communiqué commun le Haut Commissariat et le gouvernement qui rappellent que les 2,5 milliards de francs mis sur la table par l'État visent à répondre aux urgences sociales. Une partie de cette somme va être utilisée pour éviter des surcoûts pour les familles sur plusieurs postes et notamment les cantines, nous a dit ce matin Isabelle Champmoreau, la membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Était en effet notre invité du matin en compagnie du vice-recteur Didier Vindatich.
Depuis 2024, il y a eu des augmentations sur les matières premières, etc. On ne veut pas que les familles le subissent. Donc on va verser 25 millions à nos établissements pour que les établissements, eux, puissent compenser la hausse. Et donc les familles paieront le même tarif qu'en 2024 sur la cantine. Sur le transport, on a travaillé avec le SMTU, par exemple, pour desservir le collège de Porte de Fer suite à la fermeture de Riversalie. Il y avait des soucis. Donc le SMTU a travaillé sur plusieurs adaptations et notamment ouvrir une ligne spécifique entre Rivière-Salée et Port-de-Fer pour les élèves. Voilà, c'est un exemple. On continue aussi par une enveloppe de plus de 30 millions à soutenir le transport des internes dans le Nord pour permettre aux lycéens de rejoindre leurs internats et c'est très important de soutenir nos élèves.
Ce dispositif de solidarité républicaine va permettre aussi de verser des subventions aux centres de loisirs, mais aussi par exemple de délivrer des bons et des pochettes pour la rentrée scolaire. Et justement, vous le savez, vous l'entendez, la rentrée scolaire approche à grands pas et pour beaucoup de familles, c'est déjà l'heure de penser aux devoirs avec les enfants, aux lacunes accumulées l'an passé et à la reprise du rythme. Pour aider les élèves à bien démarrer, le soutien scolaire séduit de plus en plus, notamment pendant les dernières semaines de vacances. Au sein de la belle école à Nouméa, les enfants peuvent revoir le programme de français, de maths, mais aussi d'anglais grâce à des cours immersifs.
So we're going to see how to make a sentence with the present simple.
I eat some chips.
I eat chips.
On rentre à Tuba en 6e. Là, on practice le présent simple en anglais et on fait avec tous les verbes. C'est la première langue la plus parlée dans le monde. Si on apprend l'anglais maintenant et que plus tard on va dans un pays un peu anglais pour notre travail, je sais pas moi, bah au moins on sera déjà avancé.
I run with my dad.
Moi, je vais rentrer en 6e à Normandie. Le plus difficile en anglais, c'est les verbes qui changent dans des sortes de conjugaisons dans d'autres temps. Donc je trouve ça difficile, mais ça va, il faut juste apprendre par cœur.
En plus des écoles spécialisées dans le soutien scolaire, de nombreuses associations de parents d'élèves et de quartier se mobilisent chaque année pour fournir quelques heures de soutien avant la rentrée scolaire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le harcèlement sont les priorités de la rentrée 2026. Quel est le domaine qui est le plus important à vos yeux? Si c'est la lutte contre le décrochage, vous tapez 1. Si c'est la lutte contre le harcèlement et les violences, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 61% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent surpris par l'ampleur des manifestations pro-palestiniennes à Sydney lors de la visite du président israélien Isaac Herzog. Ils sont 39% à dire que cela ne les surprend pas.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais,
18h05, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info soir, Léana Colombo.
Ce communiqué du président de la province Nord, signé par la deuxième vice-présidente, Valentine Rissouquet, il porte sur des atteintes qui ont visé des agents provinciaux, notamment au centre médico-social de Canala, que ce soit dans l'exercice de leur mission ou dans leur cadre de vie, précise le communiqué. « Je condamne avec la plus grande fermeté ces comportements inacceptables. Rien ne saurait justifier que des agents engagés au service de l'intérêt général soient pris pour cible », écrit le président de la province Nord. Il apporte son soutien aux agents ainsi qu'à leurs équipes et assure que la collectivité prendra toutes les mesures pour garantir leur protection ainsi que la continuité du service public. Dans l'actualité de ce jeudi également, le COSENC, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Nouvelle-Calédonie, signale la présence de cuboméduses dans certaines zones du lagon sud-ouest et notamment entre la passe de Dumbéa et la passe de Witoé. Lionel Sabot.
La présence d'un banc de ces méduses a été signalée au COSENC par un pêcheur sous-marin situé sur le récif de l'Annibal, situé en face de l'îlot Emba. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie appelle donc les usagers de la mer à la plus grande prudence. Les cuboméduses, qui ont été régulièrement observées dans le lagon calédonien depuis 2018, avec une récurrence de grande ampleur en janvier 2024, de l'île des Pins à Népouy et jusqu'à Marée, sont connus pour leur venin extrêmement puissant qui provoque des symptômes rapidement incapacitants. En effet, le contact de la peau avec les filaments d'une cuboméduse entraîne une envenimation sévère comportant, outre une douleur intense immédiate, des douleurs généralisées musculaires, articulaires, abdominales et lombaires, ainsi que des vomissements, des maux de tête, une fatigue intense et une gêne respiratoire. Le risque de noyade est important du fait du caractère rapidement incapacitant des symptômes. En cas de contact, il faut sortir la victime immédiatement de l'eau, inactiver les cellules urticantes potentiellement présentes sur la peau de la victime en versant en abondance du vinaigre sur la zone qui est touchée, décoller très délicatement les filaments avec une pince ou une main gantée de néoprène. En cas de symptômes importants, il est conseillé de consulter rapidement un médecin. La direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie recommande fortement de limiter la baignade dans la zone infectée et de ne pas manipuler une méduse, même échouée ou morte. Il est à noter que depuis le signal signalement d'un banc de cuboméduses. 3 personnes ont été piquées au niveau de la passe de Dimbéa.
Et une alerte requin ce matin à l'Ilomètre. Un requin de 2,50 m a été aperçu près du ponton sans que l'espèce n'ait été identifiée pour l'instant. Les services compétents sont mobilisés. Non loin de là, la baignade a été interdite pendant une heure à la baie des Citrons en cause de la viande découverte sous l'eau et à la surface entre le MV et le filet de protection. Les pompiers sont intervenus et ont tout nettoyé. L'interdiction de baignade a ensuite été levée. Un exemple encourageant de reconstruction. Ce matin, le membre du gouvernement Christopher Gigès et la directrice de la mission interministérielle Claire Durieux ont visité les locaux de l'imprimerie Graphoprint à Normandie. Le 23 mai, Thomas Allen a vu ses outils de production partir en fumée dans un incendie qui a brûlé l'étage de son usine d'imprimerie. La reconstruction a été entamée en janvier 2025. Ils ont même pu démarrer l'agrandissement de l'usine, 500 mètres carrés en plus en milieu d'année. Cela a notamment été rendu possible grâce à un dispositif de défiscalisation de la Nouvelle-Calédonie et de l'État. Thomas Allan est le gérant de Graphoprint.
Cette défiscalisation, elle était importante déjà pour la reconstruction, qui nous a permis de repasser des machines qui étaient détruites en défiscalisation, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, ce qui a permis de compenser le manque de l'assurance de par la dévaluation des machines ou autre. Ce qui a permis une reconstruction plus facile. Après, par contre, voilà, c'était le nouveau projet qu'on a décidé d'embrayer en même temps que la reconstruction, qui, lui, était déjà dans les tuyaux avant les émeutes, l'agrandissement de la nouvelle production. Il y a toujours beaucoup de mauvaises nouvelles et très peu de bonnes, mais c'est vrai qu'il faut y croire. Rien n'est tout rose, mais par contre, on a besoin de se relancer, de ne pas rester attentiste. C'est important. Moi, je suis natif d'ici, donc j'ai pas envie de partir et j'ai envie que ça redevienne mieux qu'avant. Il faut vraiment se donner les moyens et puis retourner au travail, remonter les manches et retourner au travail.
Après être passé de 12 à 7 employés après les émeutes, Graphoprint a pu en réembaucher 2 l'année dernière. 2 autres emplois à temps plein doivent être créés. La reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie semble donc possible. C'est ce qu'ont pu constater Claire Durieux et Christopher Gigès, membres du gouvernement, en charge notamment de l'économie et de la fiscalité.
L'objectif, c'était de soutenir les entrepreneurs qui font le choix de reconstruire en Nouvelle-Calédonie. Cette société, elle avait été touchée par les émeutes avec des incendies. Donc, il y a eu à la fois une reconstruction et un agrandissement. À la fois, l'État et le gouvernement ont soutenu via les dispositifs de défiscalisation. Et on était à un investissement de 390 millions. Les 2 défiscalisations, c'est à peu près 50% d'apport à la fois de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est montré que l'économie calédonienne repart avec des entrepreneurs qui y croient.
Des investisseurs ont aussi visité l'entreprise ce matin. Une stabilisation à des prix à des niveaux plutôt bas et quelques signes encourageants. C'est ainsi que le directeur de l'IOM qualifie l'année économique 2025. Fabrice Dufresne était ce midi l'invité des Jeudis de l'économie, Jean-François Bodin.
Il fallait attendre les derniers indicateurs pour avoir une vision d'ensemble de l'évolution de l'économie l'an dernier. Le tout dernier indicateur rendu public aujourd'hui est le climat des affaires qui permet de mesurer le moral des chefs d'entreprise et leur confiance dans l'avenir. Fin décembre 2025, il s'établissait à 91, il reste donc plutôt bas, a commenté Fabrice Dufresne.
Il faut rappeler que l'indicateur du climat des affaires avait chuté à hauteur de 66, qui était le niveau le plus bas que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas enregistré depuis que l'on réalise ce type d'enquête, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans. Donc on est à 91, modulo, la plupart des chefs d'entreprise, à peu près les 3 quarts qui ont été interrogés, l'ont été juste avant le 19 janvier, qui est la date de signature de l'accord Élysée-Oudinot. Lors de la signature de l'accord de Bougival, du 12 juillet de l'année dernière, on avait perçu une progression. Alors, il faut rappeler que l'indicateur du climat des affaires progresse depuis les émeutes de 2024. Mais là, on voit une certaine stabilisation et il faudra bien entendu être attentif à l'évolution de l'ICA à la fin du premier trimestre de 2026.
Les différents secteurs de l'économie n'ont pas terminé l'année 2025 sur le même plan. Le BTP reste toujours un secteur sinistré. Le tourisme a plutôt stagné. En revanche, le directeur de l'IOM a relevé quelques signes positifs sur le nickel.
Ce qui est quand même extrêmement favorable, c'est la reprise assez significative de la production d'extraction de nickel. On retrouve presque les niveaux d'avant-crise, et ça de manière assez spectaculaire, notamment tout au long de l'année 2025. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément favorable, c'est au niveau de la production, notamment de l'usine du Sud, qui avait déjà retrouvé depuis quelques trimestres son niveau d'avant-crise. Ça, sont 2 éléments sur la filière nickel, de nature à évidemment donner de perspectives plus favorables pour l'année 2026.
Avec un taux de chômage important, de nombreuses familles sont en difficulté. Cela se mesure par exemple par l'augmentation sensible du nombre de dossiers de surendettement. Mais cela se ressent aussi sur la production de crédits, a expliqué Fabrice Dufresne.
Sur l'investissement privé, au regard de la production de crédit, on a plutôt un indicateur favorable et défavorable. Le défavorable, c'est la production de crédit immobilier des particuliers. Leur remonte, mais très timidement. On est très très loin des niveaux d'avant-crise. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est la production de crédits alloués aux entreprises sur l'investissement, sur le renouvellement en fait de l'outillage, mais également sur les crédits immobiliers des entreprises, où là, on a une progression non négligeable de la production de crédits.
Au regard de ces éléments, il est difficile de prévoir les évolutions économiques pour l'année qui vient de commencer. Ce qui est sûr, c'est que la relance attendue était inenvisageable sans l'intervention de l'État.
Le plan de relance de 2,2 milliards d'euros sur 5 ans, qui a été annoncé par le Premier ministre en décembre de l'année dernière, bien entendu, est de nature à relancer l'économie dans des proportions relativement conséquentes. Le relevé de conclusion à l'issue des discussions à Oudinho se matérialise concrètement par une consolidation du budget de la Nouvelle-Calédonie pour 2026 avec des sommes importantes qui vont être apportées. Donc forcément 2026 plus les mesures de désendettement proposées par l'État vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, vont permettre de donner un nouveau bol d'air et de relancer au moins sur le secteur public, l'économie calédonienne au cours de l'année 2026.
Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, invité des Jeudis de l'économie. L'émission est à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie annonce le lancement d'une étude stratégique visant à accompagner la structuration et le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des lois du pays adoptées en 2025 qui ont permis de définir et de reconnaître l'ESS en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans le cadre du pacte de refondation économique. Financée par l'AFD, cette étude a pour objectif d'accompagner la Nouvelle-Calédonie dans la définition d'un cadre stratégique durable de structuration de l'économie sociale et solidaire, piloté par la direction des entreprises, de la consommation, de l'attractivité et des télécommunications. Cette démarche associera les institutions concernées ainsi que les acteurs de l'écosystème ESS. Il est 18h passé de 16 minutes. Seconde pause avant de parler des nouveaux médaillés de l'association Témoignage d'un passé.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
On pulvérise les prix chez Bureau Vallée. Le fauteuil Gamer Fusion S est à moins 25%, soit 19 425 francs.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valide jusqu'au 22 février 2026.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Anna Colombo.
Un engagement récompensé. 8 membres de l'association Témoignage d'un passé se sont vus remettre une médaille en reconnaissance de leur travail de transmission de l'histoire calédonienne. Jacques Astakoff s'est vu remettre la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin et 7 autres bénévoles ont reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif échelon bronze. Parmi les médaillés, Arnold Russ, 96 ans, une personnalité incontournable et incollable sur l'histoire calédonienne, jamais avare d'anecdotes.
On ne fait que d'apprendre à la jeune génération ce que les anciens, leurs anecdotes et leurs faits et gestes. Et moi, depuis toujours, je m'attache à ça, quoi. Comme j'expliquais, le téléphone, à l'époque, ça n'existait pas chez les particuliers, donc on avait le réseau inter avec les fiches. Et nous, dans le quartier, alors finalement, c'était le seul téléphone qu'on avait, c'était un téléphone public dans une jolie petite débit Barboisson épicerie en brique rose qui a été malheureusement démolie. Quand les Américains sont venus, on était dans les cavernes, nous. Hein. On s'y est mis tout de suite. Hein. Des fois, c'est dur à expliquer, d'ailleurs. On s'adapte plus vite que l'on le croit.
Les décorations ont été remises ce matin par le haut-commissaire Jacques Billan au cours d'une cérémonie sur le site historique de l'Innou. L'occasion de rappeler que l'association Témoignages d'un passé a été une des victimes des émeutes de mai 2024, avec notamment l'incendie de son dock des collections qui abritait 50 années d'histoire calédonienne et du musée rural de Païta. Mais de nouveaux projets vont prochainement voir le jour, rappelle le haut-commissaire.
J'ai pu rappeler ce matin combien la mémoire du bagne en Nouvelle-Calédonie constitue un fait sociétal majeur, structurant durablement l'histoire du territoire, son peuplement et ses dynamiques sociales. Et cet héritage qui s'inscrit au cœur de la construction de la société calédonienne contemporaine fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt patrimonial renouvelé, notamment à travers un projet d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO porté par les institutions locales. Et c'est bien dans ce contexte que s'inscrivent aujourd'hui toutes les actions qui sont portées par l'association Témoignages d'un passé.
Et l'association Témoignages d'un passé continue également sa numérisation des documents au travers de sa base Orgon. Et si demain était votre jour de chance ? Et oui, c'est un vendredi 13 et RRB vous propose de remporter 1 million de francs. 1 million de francs à dépenser où vous voulez et comme vous voulez. C'est en effet demain le tirage au sort de notre grand jeu du million. Il aura lieu à 14h. Si jamais vous n'avez pas encore envoyé RRB au 40-20 ou si vous voulez augmenter vos chances de gagner, c'est le moment d'envoyer un SMS qui sera peut-être le SMS gagnant. Envoyez donc RRB au 40-20 dès maintenant. Le dernier délai, c'est donc demain 14h et c'est le moment de tenter votre chance car sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et on passe à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Vigilance jaune, forte pluie, orage. Elle concernera les communes de Wailou, Ayaté, ainsi que Farino et Saramea, avec des orages qui persisteront jusqu'en début de soirée. Certains foyers orageux quitteront la Grande Terre et pourront également impacter l'île des Pins. Cette nuit, en première partie de nuit, des averses parfois soutenues et localement orageuses concerneront encore la côte est et l'extrême sud, avant de se dissiper rapidement. Ensuite, le ciel deviendra le plus souvent dégagé sur l'ensemble du territoire. Quelques passages nuageux circuleront encore avec de rares averses isolées aux Loyautés ainsi qu'aux extrémités nord et sud. Le vent soufflera entre 5 et 10 nœuds en soirée, généralement de secteur sud, puis il faiblira progressivement pour devenir variable faible. Aux Loyautés, il restera un peu plus sensible, proche de 10 nœuds, de nord à nord-ouest. Les températures quant à elles sont en légère baisse aux Loyautés et localement sur l'ouest avec 19 et 20 degrés. Ailleurs, elles resteront stables et comprises entre 21 et 25 degrés. Demain matin, la matinée sera bien ensoleillée sur la façade ouest. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront avec quelques gouttes possibles sur l'extrême sud, les Loyautés et la pointe nord-est. Le vent restera souvent variable faible avec des brises autour de 5 nœuds. Aux Loyautés, il se maintiendra proche de 10 nœuds de nord-ouest. Côté mer, la marée sera basse cette nuit à 22h40. Elle remontera pour atteindre son plein niveau à 5h57 demain matin avec des hauteurs comprises entre 63 cm et 1m30. Et côté ciel, le clair de lune atteindra 23,6% de luminosité cette nuit, offrant une ambiance douce et légèrement argentée après le passage des orages.
Eh bien, merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.